En fait, si j'essaye de me remémorer pourquoi j'ai fait de la traduction, je me rends compte que quand j'étais enfant, très tôt, j'ai été exposé à plusieurs langues. Ma langue maternelle, c'était le français. Je suis né en Algérie, mais l'Algérie, c'était un territoire français à l'époque. Et évidemment, j'ai appris le français. Mais comme je suis né dans une famille juive et que mon père faisait la prière le vendredi soir, par exemple, évidemment, il la faisait en hébreu. Alors, quand j'étais petit, pour moi, l'hébreu, c'était de l'hébreu. Et c'était difficile à comprendre. C'était pas que c'était difficile à comprendre. Je comprenais pas ce qu'il disait. Donc, je l'entendais toutes les semaines parler une langue qui m'était complètement étrangère. Et c'était très mystérieux de savoir ce que ça voulait dire. Donc, je passais mon temps à lui demander de me dire ce qu'il disait, de m'expliquer ce qu'il disait. Parce que j'ai pas appris l'hébreu quand j'étais petit. En tout cas, pas tout petit. Et puis, il se trouve qu'on est parti, on a émigré d'Algérie, on est parti un an en Israël. Et là, j'ai appris l'hébreu, mon frère aussi. Et d'après la légende familiale, on parlait l'hébreu mieux que les parents. Parce qu'évidemment, nous, on l'apprenait dans la rue avec les copains. Et il y a même une histoire de légendaire, enfin qui fait partie de la légende familiale. C'est mon père était médecin et un jour un patient, il n'avait pas de cabinet à lui, mais un patient vient lui demander conseil devant la maison. Et comme le patient parle l'hébreu et que lui parle l'hébreu mais pas très bien, il appelle mon frère et c'est mon frère qui traduit. Et grâce à la traduction de mon frère, il fait le diagnostic pour le patient et le patient peut aller se faire soigner parce que lui, il pouvait juste lui donner un avis, il pouvait pas le soigner. Il fait le diagnostic, il envoie le patient se faire soigner et le patient revient le remercier plus tard. Donc il y a des histoires comme ça sur la compréhension des autres qui sont très très vivement ancrées dans mon histoire familiale et dans mon histoire personnelle. Et là, en vous le racontant, je me dis que ce n'est pas sans relation, évidemment, avec le travail de l'écrivain ou le travail du médecin, qui consiste beaucoup à essayer de comprendre ce que les autres disent et parfois à leur traduire des choses qu'ils n'ont pas comprises. La deuxième expérience de linguistique que j'ai, c'est qu'à 10 ans et demi, mon père décide de nous envoyer, mon frère et moi, en Angleterre tous les étés. Alors on part avec une association, on passe un mois dans une famille le soir et puis dans la journée on est avec l'association et on visite, on est à Londres, on visite Londres. Mais très vite, le premier jour, le monsieur qui nous héberge nous met dans un autobus, il nous donne une adresse. Et puis, il nous laisse nous débrouiller. Alors, on est trois. Il y a moi, mon frère qui est plus jeune, et puis un autre garçon qui doit avoir l'âge de mon frère. Alors, moi, j'ai 10 ans et demi ou 11 ans. Et me voilà largué dans Londres avec juste l'adresse où je dois aller. Il m'explique, j'ai compris la moitié des trucs qu'il m'expliquait pour prendre le bus, etc. On descend du bus et je suis en train de chercher mon chemin. Alors, je demande... Je vois un gentleman londonien typique avec le chapeau melon, le costard, le parapluie et la sacoche. Je l'arrête, je lui montre l'adresse. Il me regarde, il me dit « Do you speak Yiddish ?» Ce qui est quand même bizarre de la part d'un Anglais. Mais en fait, l'adresse, c'était l'adresse d'une synagogue puisque c'était une association juive. Et on avait le groupe dans la synagogue. Et lui... Probablement, il parlait le yiddish, il devait être juif aussi, donc il me demande de you speak yiddish parce qu'il voyait que je ne comprenais pas très bien l'anglais. Alors je dis non, parce que je ne parlais pas le yiddish c'est la langue des communautés juives, mais d'Europe du Nord, moi je venais d'Afrique du Nord, et donc c'est pas du tout la même chose. Donc il finit par m'expliquer, on trouve. Donc j'étais dans cette situation. Et tous les mois, à partir de l'âge de 11 ans, je vais passer, tous les étés, je vais passer un mois en Angleterre, et très vite... quand on est en immersion comme ça dans une famille qui ne vous parle qu'anglais, bah, vous finissez par comprendre, surtout à 11 ans où on capte tout. Et puis très vite, je ne vais plus avec le groupe parce qu'on refait toujours les mêmes visites. Donc moi j'adore le cinéma, je suis plus grand que mon âge, j'ai poussé, donc on ne me donne pas 11 ans, on m'en donne 14 ou 15. Je vais au cinéma, je prends le métro tout seul et j'achète énormément de comic books parce que c'est la lecture de mon âge. Mais évidemment, les comic books, ils sont en anglais. Et donc, il faut que j'apprenne à les comprendre. Et comme j'ai plus d'anglais que mon frère, je lui fais la traduction. C'est-à-dire que lui, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas fait d'anglais du tout. Moi, j'en ai fait et je commence à comprendre. Et donc, je lui traduis les comic books. Et après, j'achète des comic books et je les lis. Et puis, des fois, je me trompe. Je ne comprends pas ce qui se dit. Donc, je vais chercher dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'apprends à lire les comic books et à les traduire pour moi d'abord, à partir d'un désir. Et je pense que c'est très important, cette idée que finalement, ce qui m'a attiré aussi vers la langue anglaise, c'est pas le fait que mon père nous envoie en Angleterre, parce que c'était un peu effrayant ça, c'est le fait que quand j'étais enfant et que j'étais seul à Londres, eh ben, j'allais faire les choses qui me plaisaient, c'est-à-dire j'allais trouver des livres, trouver des bandes dessinées, j'allais au cinéma. Et évidemment, vous allez dans un cinéma londonien où il n'y a pas de sous-titres, bien entendu. Et donc, bah, vous êtes obligé de faire un petit effort de compréhension. Alors, des fois, ce qui était encore possible à l'époque, bah, je restais deux fois. Je regardais le film deux fois d'affilée pour comprendre à nouveau. Il y a tout un travail qui se met en place d'essayer de comprendre ce que ces gens-là disent. Il y a une autre chose qui se met en place, c'est le fait que j'ai envie de raconter ce que j'ai vécu. Et donc j'ai envie de raconter en particulier aussi les films que j'ai vus, les livres que j'ai lus, les choses que j'ai entendues. Un peu plus tard j'irai au théâtre aussi parce que quand j'aurai 15, 16 ans, 17 ans, je vais continuer à aller en Angleterre. Et là, les activités de groupe, c'est par exemple d'aller au concert ou d'aller au théâtre. Donc d'aller écouter Shakespeare dans le texte. Shakespeare dans le texte, c'est coton. Donc ça nécessite aussi, même pour les Anglais eux-mêmes, une traduction. Donc mes amis anglais me traduisent Shakespeare ou me traduisent ceux qui pensent avoir compris de Shakespeare. Il y a tout un travail de compréhension de cette langue qui est une langue extrêmement archaïque, très fleurie, très poétique et qui ne s'articule pas comme la langue moderne. Donc en fait c'est toutes ces expériences qui ne sont pas des expériences d'immersion immédiate, c'est-à-dire je n'ai pas acquis une langue parce que j'ai été mis dans un pays et que j'ai dû l'apprendre comme ça de façon permanente. Mais ce sont des immersions qui se font de façon progressive et beaucoup par l'intermédiaire de la fiction. Le cinéma, le théâtre, l'écrit. Hein. J'achète beaucoup de livres, beaucoup de bandes dessinées, mais aussi beaucoup de romans de science-fiction parce que j'en lis beaucoup, des romans policiers. Je me mets à lire évidemment Conan Doyle en anglais parce que je l'ai lu en français, mais j'essaye de le lire en anglais aussi. Bon, à l'époque, c'est un peu aussi coton parce qu'il y a des mots que je ne connais pas. Bon. Et donc j'ai fait cette immersion dans les deux langues, voilà. Ça a été une immersion plutôt par l'intermédiaire de la culture, plutôt que par l'intermédiaire du rapport avec les gens. J'ai bien entendu des rapports avec les gens, je parle avec eux, mais c'est pas la même langue. La langue parlée, c'est pas la langue écrite, c'est pas la langue littéraire, c'est même pas la langue qu'il y a dans les comic books, parce que dans les comic books, c'est pas de l'anglais. D'Angleterre, c'est de l'anglais des États-Unis. Il y a des tas d'expressions qui sont tout à fait particulières aux Américains et qui ne sont pas identiques à ce qu'on dit en Angleterre. Donc des fois, il y a des choses assez drôles. C'est-à-dire que moi, je reprends dans mon langage des expressions que j'ai lues dans les comic books et les Anglais me regardent comme ça en me disant « Mais t'as appris ça où ?» Et là, je me rends compte que dans une même langue, eh ben, il peut y avoir des variantes. Ce que je ne sais pas encore, parce que je n'ai pas encore vécu en France dans suffisamment d'endroits pour savoir qu'il y a des variantes régionales. Mais en tant qu'enfant ou que jeune adolescent, je l'apprends comme ça. Et puis, il m'arrive une autre chose très importante, c'est qu'à l'âge de 17 ans, je suis fasciné par l'Amérique. Je postule dans une association qui envoie des lycéens, qui est une association qui s'appelle The American Field Service, qui envoie des lycéens... Enfin, des élèves du secondaire de tous les pays du monde, des États-Unis dans tous les pays du monde et de tous les pays du monde, à l'époque seulement aux États-Unis, maintenant c'est un peu n'importe qui part de n'importe où pour aller n'importe où, enfin dans tous les pays qui font partie de l'association. Et j'ai postulé pour aller aux États-Unis, je voulais aller aux États-Unis et je passe un an aux États-Unis. Et cette année aux États-Unis change ma vie parce que là, je fais une immersion totale dans la langue anglaise. Certes, c'est la langue anglaise du Minnesota, mais c'est quand même la langue anglaise. Là, j'apprends non seulement l'anglais local, mais aussi j'apprends que une langue s'est imprégnée de la culture locale de la population. Dans le Minnesota, il y a beaucoup de gens qui sont originaires de Norvège, de Suède, beaucoup de de descendants de Scandinaves. Donc, ils ont d'abord des rapports avec l'Europe du Nord qui sont un peu particuliers. Ils ont un flegme qui est particulier aussi. Ils ne sont pas comme dans le Vermont ou comme en Californie ou comme dans l'État de Washington. Et ils le disent et ils tiennent à le dire. Ils aiment beaucoup le hockey. Ils aiment beaucoup, donc, ils ont leur particularité. Et ils ont aussi leur particularité, soit d'expression, soit soit de tenue, bien entendu. On m'apprend à bien me tenir, parce que je me tiens comme un Français, c'est-à-dire pas très bien. Et puis en plus, je me tiens comme un Français d'Afrique du Nord, c'est-à-dire je parle encore plus avec les mains que là, tout de suite. Et ça, c'est une expérience qui est marquante, parce que pour la première fois, je vais me mettre à écrire dans une autre langue que la mienne, pour faire les devoirs, tout simplement, mais je vais travailler un peu dans le journal de l'école, je vais écrire des textes, et en particulier, je vais écrire des nouvelles. Et je fais une autre expérience, qui est une expérience pour moi déterminante aussi, c'est que dans le cursus de l'année de la dernière année de secondaire que je fais là-bas, je peux choisir mes matières, et je décide, ma mère américaine, c'est-à-dire la femme qui m'accueille, est prof dans le lycée, elle m'a fait un programme dans lequel il y a une heure de travail à la bibliothèque. J'en ai pas vraiment besoin, parce que je suis un élève assez qui comprend assez vite, qui apprend assez vite, donc cette heure, je m'ennuie un peu. Donc je décide, à la place de cette heure de travail, je décide de prendre typing. Ça n'a l'air de rien, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur et sait ce que c'est qu'écrire sur un clavier. Mais là, on est en 1972. Et en 1972, en France, les garçons n'apprennent pas à taper à la machine à écrire. C'est les filles qui apprennent. Les filles qui font du secrétariat, elles apprennent à taper à la machine à écrire. Mais les garçons, ils ne savent pas ce que c'est qu'un clavier de machine à écrire. Moi, je sais ce que c'est qu'un clavier de machine à écrire, parce que ma mère tapait à la machine. Et elle avait sa machine dans son bureau, et c'est elle qui tapait les lettres de mon père. Mon père était médecin. Comme il écrivait comme un médecin, c'est elle qui traduit du manuscrit au tapuscrit, et c'est elle qui tape ses lettres. Donc j'ai toujours vu la machine à écrire. J'ai déjà utilisé une machine à écrire, parce que je trouve ça marrant d'utiliser une. Quand j'étais gamin, j'allais jouer à la machine à écrire, comme mes enfants ont fait après. Et j'apprends à taper à la machine. Et apprendre à taper à la machine, c'est vraiment important, parce que à partir de ce moment-là, je saurais toujours écrire avec un clavier. J'ai 18 ans. À partir de l'âge de 18 ans, là j'en ai 57, ça fait donc 40 ans que j'écris sur un clavier. Pour des gens de ma génération, pour des hommes de ma génération, c'est pas banal du tout, surtout en France. C'est beaucoup plus courant en Amérique du Nord où... Mais moi j'ai en plus dans l'idée que les écrivains américains, j'imagine... Hemingway, il écrivait debout à la main, mais j'imagine par exemple Chandler ou Dashiell Hammett devant leur Remington. Donc pour moi, apprendre à taper à la machine, c'est déjà acquérir un outil qui est un outil d'écriture. Et évidemment, l'une des premières choses que notre prof de typing fait, c'est qu'elle nous fait d'abord apprendre les lettres, ensuite elle nous fait écrire des phrases entières, et puis un jour, c'est à l'époque de Halloween, on apprend très vite, hein, quand on tape tous les jours, et puis qu'ensuite on rentre à la maison, ma mère américaine me prête sa vieille machine mécanique, parce qu'elle a une machine électrique qui va beaucoup plus vite, mais me prête sa machine mécanique que je mets dans la chambre, et je tape les lettres à mes parents, et l'une des premières choses qu'elle nous demande, que notre prof nous demande, aux alentours de Halloween, c'est de dire « Ah ben, ça va être Halloween, écrivez-moi un conte de Halloween. » Et j'écris un conte de Halloween en anglais. Comme je n'ai pas fini à la fin de l'heure, je dis « Est-ce que je peux vous finir ça à la maison ? Je vous le rapporte demain. » Je finis mon conte de Halloween à la maison. J'ai déjà écrit des nouvelles quand j'étais beaucoup plus jeune, mais c'est la première fois que j'écris une nouvelle en anglais. Donc je suis obligé de faire un travail de traduction de ce que je pense en français dans la langue anglaise. C'est-à-dire non pas seulement de reprendre servilement des expressions que je connais, mais de construire une histoire avec les mots que j'aurais utilisés moi en français, et puis d'en faire quelque chose qui est... Donc ma toute première expérience de traduction écrite, c'est de traduire ce que je pense moi en français en anglais. Et c'est une expérience de traduction de fiction, à partir d'une fiction que je construis au fur et à mesure. Et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux parce qu'il y a une sorte de double travail qui est à la fois d'imaginer l'histoire et de la donner dans une langue qui n'est pas la mienne, à des gens qui vont la lire autrement que si je l'avais écrite en anglais. Je vais écrire d'autres histoires, et puis quand je rentre en France et que je commence à faire des études de médecine, cette expérience évidemment d'un an aux États-Unis pour moi est considérable, parce que la France est un pays dans lequel les études de médecine et les médecins sont des gens qui ne lisent pas beaucoup l'anglais. Ils ne lisent que les trucs qui sont écrits en français, ce qui explique que la médecine française est probablement l'une des plus arriérées qui soit sur le plan du savoir médical encore à l'heure actuelle. Et il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de médecins qui commandent des livres en anglais à la faculté de médecine, et donc je vais me mettre à lire les livres en anglais de médecine pour approfondir mes connaissances. Et parfois, comme on fait évidemment des groupes de travail et que je suis le seul à lire l'anglais, eh ben je le traduis à mes camarades. Et comme je suis aussi le seul à taper à la machine, je fais des résumés de traduction ou de sens que je tape à la machine pour mes camarades. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des traductions, littéralement, pour des jeunes gens de mon âge qui sont pressés, qui ont besoin d'avoir des textes qui sont courts, qui leur donnent des informations extrêmement précises sur ceci et cela. Et je commence en fait par faire des traductions qui sont des traductions techniques. Mais comme j'aime pas, évidemment, j'ai pas envie juste de faire de l'expression au kilomètre, j'essaye de rédiger ça de façon très, très rigoureuse, très scientifique. Donc je me mets à singer les textes médicaux francophones que j'ai lus, c'est-à-dire mes traductions, je les fais sous la forme d'un pseudo-billet médical cadré sur la façon dont nos cours sont écrits ou dont les articles des revues sont écrits. Donc ça m'apprend à faire un travail qui est un travail de double transformation, de transformation d'une langue dans l'autre, mais aussi de transformation d'une forme d'expression qui est l'expression technique médicale, qui est très particulière en anglais, mais qui n'est pas du tout la même en français. En français, il y a beaucoup plus d'emphase, de circonvolution, il y a des expressions toutes faites, etc. Alors que les anglophones, ils sont toujours extrêmement précis, même s'il y a des choses qui reviennent, c'est souvent un langage extrêmement... sur le plan de la syntaxe, c'est très simple. Après, il y a des termes techniques, mais la syntaxe est toujours très simple. Et évidemment, ça aussi, c'est quelque chose non seulement m'intéresse, mais me travaille beaucoup, parce que je me mets aussi à lire des livres américains dont il y a des traductions en français, et je me rends compte que les traductions en français laissent souvent à désirer. C'est-à-dire que soit y a des contresens, parce que ça a été probablement traduit trop vite, et je saurai que c'est ça beaucoup plus tard, lors d'une autre expérience que je vous raconterai tout à l'heure. Soit il y a des contresens, soit il y a des choses qui paraissent complètement triviales aujourd'hui, c'est-à-dire des faux amis qui sont traduits évidemment littéralement, soit des expressions courantes qui sont soit britanniques, soit américaines, que manifestement le traducteur n'a pas comprises, donc il laisse complètement passer. Et donc je me rends compte que le travail de traduction, c'est un travail qui devrait aller couler de source, mais qui manifestement n'est pas fait toujours très correctement. Il y a des gens qui traduisent très bien, puis il y a des livres, surtout des livres de médecine, ce qui est quand même problématique pour des livres de médecine, qui ont l'air d'être traduits un peu en dépit du bon sens, c'est-à-dire que des fois, on fait dire autre chose que ce qui a été dit. Ou en tout cas, et pas seulement parce que des nuances sont parties, c'est parce qu'il y a des sens qui sautent. Pendant mes études de médecine, à de nombreuses reprises, je vais être confronté justement au fait que, comme les médecins français s'appuie surtout sur la littérature médicale française et regarde assez peu ce qui se passe à l'extérieur. C'est quand des gens s'intéressent à ce qui est écrit ailleurs, sont des individus, mais par exemple dans les revues médicales, il n'y a pas de revue de presse de la littérature anglo-saxonne, il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de choses comme ça, en tout cas à l'époque, dans les années 70. Moi, je vais faire un travail qui va être un travail très poussé, personnel, de lecture de choses, de livres qui sont écrits en anglais, parce que je peux le faire, et un travail de comment dirais-je, et je vais être souvent confronté de manière assez désagréable avec soit l'ignorance, soit la relative discrétion de certaines notions. Par exemple, un jour, j'étais dans un service de chirurgie, j'étais étudiant, j'étais étudiant hospitalier, et tous les samedis, le patron, qui était un grand chirurgien, qui était une sommité en France, qui faisait des précis d'anatomie que tout le monde connaissait, etc., le chirurgien qui s'appelait Brison, réunissait tous les samedis matins tous les étudiants qu'il y avait dans les 4 ou 5 sections de son service on était une douzaine pour discuter de dossiers de patients avec lui et puis avec ses chefs de clinique, les internes, etc. Donc il y avait une sorte de grande réunion assez informelle dans laquelle les étudiants étaient un peu mis sur le grill. On leur demandait, parle-nous de ton patient, puisque chaque étudiant s'occupait de 2 ou 3 patients. Parle-nous de ton patient, présente-nous le dossier, quel est le problème, etc. Il y avait une volonté pédagogique. Et un jour, et tout le monde avait très peur de lui. Très peur de lui parce que c'était quelqu'un qui était un peu caractériel, qui prenait les grandes colères. Et c'est un peu comme tous les caractériels, quand vous savez qu'ils peuvent exploser à n'importe quoi. Quel moment, vous les froissez pas parce que vous avez peur qu'ils explosent. Et un jour, Brison parle d'une patiente qui était une femme qui avait un cancer du sein, parce qu'il faisait de la chirurgie générale, donc il faisait beaucoup de choses très différentes. Il faisait de la chirurgie des voies rénales, il faisait de la chirurgie du sein, de la chirurgie de la thyroïde, il opérait les intestins, donc c'était de la chirurgie générale vraiment très étendue. Et cette femme qui a un cancer du sein, il parle du protocole chirurgical et il dit on va lui faire ce qu'on appelait à l'époque une mastectomie totale. Une mastectomie totale, c'est on enlève le sein, mais on enlève aussi le muscle qui est dessous. C'était très mutilant. Et c'était le type de chirurgie qu'on faisait à l'époque parce qu'on voulait enlever absolument toutes les cellules qui pouvaient avoir été contaminées. Alors, je devais avoir 22 ans, quelque chose comme ça à ce moment-là. Et moi, j'avais lu dans les revues anglaises, parce que j'avais préparé le dossier, j'avais préparé la réunion à propos du cancer du sein. J'avais lu dans des revues anglaises récentes, maintenant, en Angleterre, on n'enlève plus le sein complet aux femmes, on enlève la tumeur, puis on les met sous chimiothérapie, parce qu'on a fait des études comparatives. On a vu que les femmes qu'on opère en enlevant seulement la tumeur et qu'on soigne par chimiothérapie guérissent autant que les femmes à qui on enlève le sein complet, etc., et qu'on met sous chimiothérapie. Donc, ce n'est pas la peine de les mutiler. Ça ne sert à rien. Et donc, je lève la main. Et je dis... alors, il me dit, parle. Je dis, mais monsieur, les Anglais, ils disent que faut pas enlever tout, quoi. Et alors je vois les internes, les chefs de clinique, les étudiants faire. Genre, mais il est fou de contrarier le patron. Alors il me regarde comme ça, et il me dit, tu as raison, je sais que les Anglais, ils font comme ça. Mais moi, ma nièce vivait en Angleterre, elle a eu un cancer du sein, on lui a fait une tumorectomie simple, et elle est morte. Alors j'enlève tout. Et là, j'ai été frappé par le fait que ce type-là qui lisait l'anglais et qui lisait la presse, anglophone, qui donc était au courant scientifiquement de ce qu'il faisait, n'avait manifestement pas jugé utile de nous le dire, c'est-à-dire de diffuser cette information, parce qu'il avait décidé de rester avec sa propre pratique. Il ne voulait pas changer de comportement, parce qu'il avait une raison affective de ne pas vouloir changer de comportement. Mais du coup, il y avait une sorte de rétention de l'information qui faisait que seuls des gens comme moi pouvaient dire, et on était, il y avait que moi, en l'occurrence dans le service, il y avait que moi qui pouvait lire l'anglais à cet âge-là, et puis qui pouvait dire, mais monsieur, c'est pas comme ça qu'on fait de l'autre côté de la Manche. Là, ça m'a donné le sentiment que véritablement, il y avait un travail énorme à faire, qui était un travail de traduction, mais pas seulement un travail de traduction. Il y avait un travail, que la traduction, au fond, c'est comme tout le partage du savoir. Le savoir, il doit non seulement être écrit, mais aussi il doit être explicité. Alors, on dit vulgariser, c'est un peu péjoratif, mais moi, je trouve pas ça péjoratif de vulgariser l'information. La vulgariser, c'est pas l'édulcorer. La vulgariser, c'est la rendre accessible à tous, hein, c'est-à-dire la rendre accessible au peuple, à ceux qui n'ont pas justement l'accès à des terminologies compliquées. Autre rapport avec la traduction, c'est pendant mes études de médecine que j'apprends quelque chose aussi, c'est que on peut isoler son discours et le réserver à un petit cercle, tout simplement en le jargonnant, c'est-à-dire en utilisant des termes ou des expressions, ou des formules, ou des tournures, qui sont complètement arbitraires, mais qui sont tellement peu utilisées en dehors du groupe, que quelqu'un qui rentre dans le groupe ne comprend pas de quoi vous parlez. Et il ne s'agit pas seulement des termes techniques. Il s'agit aussi de la façon dont les médecins se parlent entre eux, utilisent des codes pour désigner les patients, ils utilisent des codes pour désigner les maladies. Par exemple, en France, à l'époque, on ne dit pas cancer. Quand on est un médecin, on ne dit pas cancer, on dit néo. Néo, qui est l'abréviation de néoplasie. Mais si vous n'êtes pas un... Il y a un tabouret, il y a des chaises. Venez vous asseoir. Donc, pourquoi on dit néo? Parce qu'on ne veut pas... On veut pouvoir parler de cancer devant le patient, parce qu'on ne dit pas au patient qu'il a un cancer. On veut pouvoir parler de cancer devant le patient, sans que le patient sache qu'il s'agit d'un cancer. On veut pouvoir en parler dans le couloir sans que les gens sachent. Donc on dit, le néo du 212, comment il va? Donc il y a, vous voyez que dans mon esprit, la question de la traduction, c'est-à-dire la question de l'accession à une information, quelle qu'elle soit, concerne pas seulement une langue étrangère, elle concerne aussi les néolangues, les novlangues, que, par exemple, les médecins, en l'occurrence, puisque je suis médecin, que les médecins fabriquent pour s'isoler du reste du monde et pour conserver un certain secret, pour conserver d'ailleurs un certain contrôle sur ce qu'ils disent. Et pour moi, ça a toujours été intimement lié. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que, non seulement... Si j'écrivais, parce qu'à l'époque, je me suis mis effectivement à écrire des petits articles donc pour mes camarades. Après, je suis devenu rédacteur dans une revue médicale. J'ai toujours pensé que si j'écrivais des articles médicaux, il fallait que ces articles médicaux ils soient lisibles par n'importe qui. Peut-être au prix de 3 vérifications dans le dictionnaire pour un terme un peu technique, mais en tout cas, que tout le monde devait pouvoir comprendre. Parce qu'autrement, ça restait du langage d'initié. Ça restait quelque chose qui conservait l'information pour un petit nombre. Ça pouvait pas être, c'était pas de la vulgarisation, et surtout, c'était pas du partage du savoir. Bon, ça procède aussi d'une autre idée qui était que, dans mon esprit, moi j'ai toujours pensé que quelqu'un, quand il acquiert un savoir, et que ce savoir peut être utile au plus grand nombre, il a une obligation morale de le partager. Petite parenthèse, je raconte volontiers l'histoire suivante, qui est une histoire que j'ai entendu un rabbin raconter un jour où il parlait d'éthique de l'embryon à l'agonisant, et il raconte l'histoire suivante. Un rabbin dans un ghetto, alors c'est peut-être un shtetl en Pologne, c'est peut-être un ghetto au Maroc ou en Algérie, peu importe. Un rabbin va voir la guérisseuse en lui disant « J'ai des rhumatismes, je voudrais que tu me prescrives, tu me fabriques un médicament pour que je puisse travailler et faire ce que j'ai à faire sans souffrir. Alors elle lui fait un petit truc, elle lui donne un flacon petit comme ça. Il lui dit non, tu te moques de moi là, j'en ai pour une journée. Moi je souffre tous les jours, tu peux pas. Donc, ou bien tu me fais un grand flacon et je viens le chercher toutes les semaines, ou bien tu me donnes la recette. D'ailleurs, donne-moi la recette, parce que je n'ai pas envie de dépendre de toi. Donne-moi la recette. Elle lui dit, non, non, c'est secret, je ne te la donne pas. Il dit, comment ça, c'est secret? Je m'occupe de tout le monde, je suis le ministre officiant de toute la communauté. J'ai besoin de pouvoir me lever le matin sans souffrir de partout, d'aller faire mon travail. Donc, tu me donnes la recette. Elle lui dit, d'accord, tu es le rabbin, je te donne la recette à une condition, c'est que tu jures devant Dieu que tu ne la donneras à personne. Donc, le rabbin réfléchit 2 secondes, il dit, je jure devant Dieu que je ne donnerai la recette à personne. Et le vendredi suivant, il monte sur la théba, sur l'estrade, où il va faire son, où va faire la prière, et il donne la recette à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il trouvait que c'était un bien plus grand péché de la garder pour lui que de se parjurer. Et ça, ça résume, je l'ai entendu tard, mais ça résume, et je pense que c'est quelque chose qu'on m'avait transmis auparavant, ça résume l'éthique du savoir, à mon avis. C'est-à-dire que le savant, celui qui apprend des choses qui peuvent être utiles à tout le monde, a une obligation morale de le partager. S'il ne le partage pas, s'il le garde pour lui, s'il le monnaie en le distillant à petites gouttes, c'est contraire à l'éthique. Parce que le savoir ne lui appartient pas. Le savoir, il appartient à tout le monde. Le savoir, c'est même quelque chose qu'on peut partager sans rien perdre. Si je vous explique des choses concernant la médecine, moi je les sais toujours, je ne les ai pas perdues en vous les donnant. Au contraire. On peut même dire que si je vous explique des choses qui vont vous être utiles, je me facilite la tâche, parce que si vous les savez, vous n'aurez peut-être pas besoin de moi tout le temps, etc. Donc le savoir doit être partagé. Et en médecine, on ne partage pas le savoir. En médecine, non seulement on ne partage pas le savoir, mais non seulement on garde son savoir, mais en plus, on n'essaye pas de savoir ce que les autres pensent. Et là, je me suis rendu compte... Je me suis rendu compte progressivement, par exemple, que une autre anecdote, j'arrive aux États-Unis dans l'école où je vais passer un an, et on me dit, on me nomme toutes les pièces et on me dit, la bibliothèque est là-bas. Je dis, mais il n'y avait pas de bibliothèque dans mon école en France. Donc, il me dit, la bibliothèque est là-bas. Je dis, il y a une bibliothèque, chouette. Donc je vais à la bibliothèque et là on me montre tous les livres et on me dit, tu sais, on m'explique, tu sais, les enseignants vont te donner des choses à lire, et puis tu pourras venir chercher les livres ici, si c'est pas dans ton manuel, tu viendras chercher les livres. Ah, je dis, ah bon, c'est comme ça que ça marche? On dit oui. Donc pendant un an, chaque fois que j'ai besoin d'une référence, je vais à la bibliothèque, il n'y a pas d'internet à l'époque. Chercher les dictionnaires, les encyclopédies, etc. J'arrive en médecine, donc l'année d'après, j'arrive en médecine, première chose que je fais, je suis inscrit en première année de médecine, je vais tout droit à la bibliothèque. Et à la bibliothèque, on me dit, non, vous ne pouvez pas venir. Alors, je dis, mais pourquoi? Parce qu'en première année, vous passez le concours, vous êtes à l'autre bout de la ville, vous n'êtes pas encore des étudiants en médecine, parce que si vous n'avez pas le concours, vous ne serez pas des étudiants en médecine, donc vous n'avez pas le droit d'entrer là. Ça, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire, le savoir n'est pas accessible à tout le monde, il y a des normes. Je pourrais vous donner un autre exemple, qui est l'exemple de, enfin, si certains ou certaines d'entre vous ont déjà vu la Grande Bibliothèque à Montréal. La Grande Bibliothèque à Montréal, c'est une pure merveille. Je suis amoureux de cette bibliothèque. Je pourrais y passer 6 mois sans sortir. C'est un lieu ouvert. Les livres, vous allez les chercher, etc. Il y a des ordinateurs partout. Si vous ne trouvez pas quelque chose, là, l'autre jour, j'ai cherché un livre de Mordechai Richler. Je ne trouvais pas où c'était. Vous trouvez toujours 12 personnes qui vont vous expliquer où c'est. De prix, il y a des salles spéciales où on vous dit vous mettez des gants, des fois on vous dit vous écrivez, mais vous pouvez rentrer, ça c'est pas, vous n'avez pas besoin d'avoir 14 tampons sur le bras, etc. Ça c'est la bibliothèque de Montréal, où vous voyez tout le temps 3000 personnes, des enfants en bas, des gens qui regardent les films en haut, enfin bon, ça bouge tout le temps. La Grande Bibliothèque de France, qui est la grande bibliothèque nationale qui est à Paris. La Grande Bibliothèque de France est constituée de quatre tours séparées par environ un kilomètre chacune. Au milieu, il y a une grande esplanade sur laquelle, chaque fois qu'il pleut, tout le monde se casse la gueule parce que ça glisse. Et vous ne pouvez pas aller chercher un livre dans les rayons. Vous êtes obligé d'aller au pied de chaque tour, parce que les quatre tours, c'est thématique. Il y a l'histoire, les sciences, les lettres, et puis je ne sais plus quoi. Les sciences dures, les sciences humaines, histoire géographique, je ne sais pas. Donc, vous ne pouvez pas aller chercher un livre vous-même. Vous êtes obligé de descendre au pied de chaque tour, de demander le livre et d'attendre entre 1 heure et 2 heures et demie qu'on vienne vous le donner. L'architecte, il a mis les livres dans les tours, il n'a pas pensé que les livres, faut pas les mettre. Alors, les tours sont vitrées, bien entendu. Il n'a pas pensé que les livres, ça ne se met pas dans des tours vitrées, il y a du soleil, ça abîme les livres, faut pas les mettre à la lumière du jour, les livres. Bon. Donc, voilà. Et ça, c'est la grande bibliothèque de France. C'est pour exprimer la différence fondamentale de rapport au savoir qu'il y a entre l'Amérique du Nord et l'Europe, où on garde tout. Moi, évidemment, je suis en rupture par rapport à ça, c'est-à-dire que je me dis, j'acquiers un savoir, ce savoir, il est très utile à plein de gens, mon désir, c'est de le partager. Alors, non seulement pendant que je serai étudiant, je vais participer à des revues underground, qu'on faisait pas comme maintenant, c'était pas des blogs évidemment, c'était on tapait les trucs à la machine, c'était moi qui tapais évidemment, parce que j'étais le seul qui tapait. On tapait ça sur des stencils. Un stencil, c'était une sorte de feuille double sur laquelle les touches de machine à écrire tapaient et faisaient des trous. Et ensuite, on mettait la feuille sur une imprimerie et ça imprimait par les trous les lettres sur des feuilles qu'ensuite on allait distribuer. Ça prenait un temps fou. C'est-à-dire, quand je vois que je peux imprimer un roman de 300 pages en un quart d'heure sur une imprimante, le monde a changé, j'en suis très heureux. Bon. Et en particulier, à l'époque, on milite pour la libéralisation de l'interruption de grossesse, pour la contraception libre et gratuite pour tout le monde, pour la libéralisation de la marijuana. On est un peu en avance sur les États-Unis, mais on aimerait bien que... Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre des textes ailleurs, parce qu'il y en a qui me disent, tiens, j'ai entendu dire qu'en Angleterre, il y a ci, qu'au Danemark, il y a ça, etc. Bon, il y a des textes en anglais, on les trouve à la bibliothèque des fois, ou on les lit dans les journaux. Quelqu'un a rapporté un journal de Belgique, un journal des Pays-Bas en anglais qu'il a acheté en Belgique, il l'a rapporté, et on me dit, ben, tu veux pas nous traduire ça? Donc, je traduis. Et puis après... Après mes études, c'était ça que je voulais vous raconter. Voilà, ça. Ça, c'est un recueil de nouvelles d'un écrivain de science-fiction qui s'appelle Theodore Sturgeon, qui était très connu dans les années 50 et 60. Très bon écrivain. Et pendant mes études, je lis ce recueil que j'ai. Vous voyez, il date. C'est 71. Donc j'ai dû l'acheter en Angleterre parce que ou aux États-Unis, c'est possible. Peut-être aux États-Unis, l'année où j'étais aux États-Unis, puisque j'y étais en 72-73, donc je l'ai acheté. Je le ramène en France et j'ai lu à l'intérieur une nouvelle, qui est la dernière nouvelle du recueil, qui s'appelle Suicide. Je ne sais pas si vous savez, mais le plus fort taux de suicide, c'est chez les garçons. Entre 18 et 23 ans. Après, ça recommence après 55-60 ans. Et c'est plutôt chez les hommes que chez les femmes. Donc c'est l'époque où je suis dans la zone de danger, de probabilité de suicide chez les garçons. Moi, j'ai jamais personnellement eu envie de me suicider. Mais il y a des suicides autour de moi. Il y a même un de mes amis de faculté qui se suicidera même un peu plus tard. Et ça m'a beaucoup marqué. Mais c'est quelque chose dont on parle. Et je lis cette nouvelle. Et cette nouvelle m'impressionne tellement que je me dis, il faut que je la fasse lire à mes camarades. Alors je la traduis. Et c'est la première nouvelle de littérature que je traduis. Et il se passe quelque chose de très troublant quand je me mets à traduire cette nouvelle. C'est que je fais une première traduction... littéral. Et puis, quand je relis, je me rends compte que c'est littéral. Donc, je me dis, non, je ne peux pas traduire comme ça. Et donc, je me mets à la réécrire. Mais quand je la réécris, je me dis, mais c'est peut-être pas ça exactement qu'il a voulu dire. Donc, je suis obligé de relire le texte original et de recommencer. Et donc, je fais un travail d'écriture. À l'époque, je ne m'en rends pas compte, mais je fais un travail d'écriture qui est un double travail, qui est un travail de transposition d'un sens qui est un sens dans une langue et qui est aussi un travail d'appropriation de ma propre langue pour un lecteur qui pourrait être moi, mais qui ne connaîtrait pas le texte originel. Et ça, ça me rend énormément service parce que quelques années après, donc je viens de finir médecine, je commence à travailler dans une revue médicale. Et là, je me mets à nouveau à lire beaucoup, beaucoup de textes en anglais pour faire soit des synthèses de textes anglo-saxons en français, donc des sortes de mini-traductions, de mini-condensations de sens, soit faire carrément des traductions de textes qui sont importants, qui sont intéressants et qu'on décide de publier soit in extenso, soit de publier des extraits extrêmement développés. Et donc j'ai commencé en fait, pratiquement en même temps, à traduire de la fiction et à traduire des textes techniques. Une autre chose qui se passe, c'est que je me rends compte que dans la culture anglo-saxonne, et ça c'est, on le voit très bien dans le journalisme aujourd'hui, les journalistes, mais aussi les essayistes, et en particulier dans le monde médical, veulent absolument accrocher le lecteur d'emblée pour leur parler de choses importantes. Donc qu'est-ce qu'ils font pour accrocher le lecteur d'emblée pour lui dire quelque chose d'important? Ils lui racontent une histoire. Ils lui parlent d'un personnage remarquable en lui disant un tel fait ci, fait ça, etc. Et ils vous intéressent à ce personnage. Et puis ils abandonnent le personnage, ils vous disent, bon alors qu'est-ce qu'il devient? Donc vous êtes obligé de lire tout le texte pour le retrouver au milieu, et puis ensuite le retrouver à la fin, parce qu'il peut vendre. Ça, c'est typiquement anglo-saxon. Et ça se passe aussi dans les textes scientifiques. C'est-à-dire que dans des textes scientifiques qui sont des textes cliniques, par exemple, pour pouvoir intéresser les lecteurs à ce que c'est qu'une maladie, eh bien, ils décrivent non pas seulement la maladie, mais ce que le patient dit de sa maladie. Et ça, c'est une approche qui est radicalement différente de l'approche à laquelle j'ai affaire habituellement, moi, en France. Donc je me mets, moi aussi, à faire ça. C'est-à-dire, en parlant d'une maladie, de dire, voilà, j'ai vu monsieur machin qui se plaignait de tels symptômes. Et ça le gênait beaucoup parce que ceci, parce que ceci, parce que cela. Et là, ensuite, j'explique quelle est la maladie qui vient. Et je trouve que c'est important de voir que, fondamentalement, on pourrait se dire, quelqu'un qui est plutôt dans le discours technologique ou le discours médical ou le discours scientifique, on ne voit pas très bien comment il va passer à la fiction. Alors, ce qui m'est apparu, c'est pas seulement que j'ai pu écrire les deux parce que je lisais beaucoup de fiction et je lisais beaucoup de textes techniques, mais aussi parce que la façon de s'exprimer des anglo-saxons pouvait mêler les deux de manière assez régulière et de manière assez naturelle. Et ça m'a beaucoup aidé. Je pense que, en particulier les romans que je me suis mis à écrire, ils ont bénéficié de cette expérience, qui est une expérience qui s'est passée de façon tout à fait inconsciente. C'est-à-dire, je vous la raconte maintenant parce que j'y ai réfléchi depuis, mais ce n'est pas quelque chose que je voyais de façon consciente quand j'ai appris à la fois à écrire et à rédiger. Dans cette revue qui s'appelle La Revue Prescrire, où j'écris des textes qui sont des textes scientifiques, il y a une partie à la fin qui est dévolue à l'expression personnelle des médecins, à cette époque-là. Maintenant, ça n'existe plus, mais à l'époque, le rédacteur en chef nous dit vous devriez demander à vos camarades d'écrire des textes qui parlent de leur pratique courante. Vous devriez en écrire vous aussi, parce que c'est très important de mêler la pratique courante et puis le discours scientifique. Et là, je me mets, moi, à écrire très librement plein de textes qui concernent les patients à qui j'ai affaire. Alors je transpose, je change les noms, bien entendu. Je parle plutôt des situations que des personnes elles-mêmes. Mais je me mets à écrire des histoires qui sont des histoires cliniques. Et ça, inévitablement, je le fais en même temps que j'apprends à traduire les textes anglo-saxons qui eux-mêmes parlent d'histoire clinique. Et je pense que, je ne peux pas le mesurer, bien entendu, mais je pense que, inévitablement, les deux, pour moi, sont liés. Parce que c'est aussi l'époque à laquelle je m'achète un ordinateur. Donc je me mets à écrire, comme on le fait maintenant, très tôt, en ayant plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire sur la même, à l'époque il y a des disquettes, mais sur la même disquette j'ai plusieurs textes. Quand je suis fatigué de travailler sur un texte, je passe sur l'autre. C'est pas encore Windows, c'est le DOS, mais ça va très vite quand même quand on sait s'en servir. Et donc je mêle dans mon esprit, je mêle différents types de textes en même temps, que ce soit des textes scientifiques, des traductions ou des textes de vécu qui sont plus ou moins des textes de fiction, puisque quand je raconte des histoires concernant mes patients, je le fictionnalise tout de même de façon à ce que la confidentialité soit préservée. Et je pense que c'est une expérience très unique, même si c'est le hasard qui a fait, ou en tout cas les hasards qui ont fait que j'ai pu avoir cette expérience, qui va me donner ensuite une très grande assurance quand il s'agit de faire passer un texte de l'anglais au français, et surtout de le faire passer dans un français qui sera un français qu'on n'aura pas l'impression d'être du mauvais français mal traduit de l'anglais. Il y a un écrivain français qui s'appelle Philippe Djian. Je ne sais pas si vous avez déjà lu du Philippe Djian. Et un jour, je discutais avec un grand traducteur qui s'appelle Jean-Pierre Carasso, et on parle de Philippe Djian. Il me dit « Ah oui, celui qui écrit en français mal traduit de l'anglais. » Parce que Philippe Djian avait des tournures, à une époque où ça ne se faisait pas encore, avait des tournures complètement transposées de l'anglais dans le français. Alors du coup, il mélangeait le prétérit, le passé simple, etc. Bon, et donc, il y avait des moments où on se disait « Mais d'où il sort, lui ?» Et ça, c'est effectivement, à mon avis, son écriture a évolué depuis, mais c'était le fait de quelqu'un. J'ai toujours pensé que c'était le fait de quelqu'un qui lisait beaucoup de littérature anglo-saxonne, qui lisait parfois de la littérature anglo-saxonne mal traduite, et puis qui était tellement imprégné de ça qu'il le mettait un peu dans sa propre prose, ce qui lui donne un style tout à fait particulier d'ailleurs. Mais les styles, ils sont toujours mélangés. Et donc, pour moi, écrire et traduire sont intimement liés, finalement, depuis le début. Ça a été jusqu'à, disons, la fin des années 80. Au début des années 90, il se trouve que je me suis mis à traduire de la littérature. Tout simplement parce que j'ai commencé à publier un roman de littérature qui s'appelait La Vacation, je l'ai publié chez POL. Et comme j'avais du mal à écrire mon deuxième roman, j'avais écrit un autre roman qui avait été refusé, etc. Je voulais en écrire un autre, mais c'était long. Paul Tchaïkovski-Laurence, qui est le patron de POL, me dit, écoutez, on publie peu de traductions, mais on a toujours besoin de traducteurs littéraires, et j'aimerais vous confier des traductions. Et là, j'ai l'occasion donc de traduire des romans expérimentaux. J'ai traduit un roman de David Markson qui s'appelle Wittgenstein's Mistress, par exemple, qui était un roman vraiment réputé dans le milieu de la littérature new-yorkaise. J'ai traduit un écrivain américain qui s'appelle Harry Matthews, qui vit beaucoup en France, qui était un ami de Georges Perec, et qui lui aussi, et qui en plus est quelqu'un qui parle très bien le français, donc qui vérifiait les traductions de façon très... Donc j'ai travaillé avec lui de façon très proche. J'ai traduit aussi, à la même époque, je me suis mis à traduire des comic books, ce qui était un plaisir extraordinaire. Je viens d'en retraduire, et je vais en traduire à nouveau d'ailleurs, traduire des Batman, je suis très content. Et je me mets à traduire des comic books parce que je rencontre un éditeur qui lance une collection de comic books, et il cherche des traducteurs. Et moi, je lui dis, j'adore les comic books et je suis traducteur de profession. Il me confie des comic books et je traduis donc Randall, je traduis des bandes, des comic books de James Bond, je traduis Star Wars en comic book, je traduis bon. Et ça aussi, c'est un exercice qui est tout à fait extraordinaire, parce que les comic books, vous, probablement vous ne vous rendez pas compte, mais comme le français, ça prend plus de place que l'anglais, dans une bulle, pour ne pas avoir du caractère tout petit, vous êtes obligé de trouver des raccourcis de traduction qui vous permettent de dire la même chose avec moins d'espace que si vous traduisiez de façon littéraire ou bien de littérale ou de façon, comment dirais-je, parfaitement naturelle. Donc on est obligé de trouver des raccourcis. Le comic book, c'est une école de traduction qui est tout à fait formidable parce qu'on est obligé de trouver des solutions qui sont beaucoup plus économiques que les solutions qu'on trouverait dans la littérature, parce que là, on a de la place sur la page. Deux anecdotes parmi toutes les lectures que j'ai faites, parce que j'ai lu beaucoup de romans de science-fiction en particulier, et romans de science-fiction, si vous avez écouté la série Star Trek, par exemple, vous savez que le techno-babble dans lequel ils vous inventent des compulseurs à photons qui sont enclenchés dans le magnétron à positronique, vous savez que c'est compliqué de trouver quelque chose qui sonne aussi bien en français qu'en anglais pour faire du techno-babble. Donc la science-fiction, c'est aussi une grande école de lecture et puis de tentative d'adaptation. Mais deux anecdotes. Je lisais beaucoup Asimov, ça j'en ai parlé la dernière fois. Je lisais beaucoup un autre écrivain qui s'appelle Robert Heinlein. C'est aussi un grand auteur de science-fiction. Et un jour, je lis un roman de Heinlein en anglais. Non, je le lis en français. Non, c'est ça. Je le lis en anglais. Je le lis en anglais. Et à un moment donné, il y a une scène entre deux personnages. Il y en a un qui fait un steak à l'autre. Et l'homme demande à la femme... c'est la femme qui demande à l'homme « Comment trouvez-vous votre steak ?» Et l'homme répond en anglais « Hungerful ». O-N-G-E-R-F-U-L. Hungerful. Quid. Donc je me dis... Et il se trouve que le roman était traduit. Donc je me dis, je vais voir comment il a traduit. Et le traducteur avait traduit « Délicieux, répondit-il la bouche pleine. » Parce que c'est « hungerful », c'est la déformation de « wonderful » mais « hungerful ». C'est-à-dire que... Alors, j'apprends deux choses à ce moment-là. J'apprends que, premièrement, les déformations orales sont retranscrites sur la page... comme ça, de façon, conventionnelle, et que quand on connaît cette convention dans certains types de littérature, on comprend qu'il y a des transformations comme ça. Donc, on ne se demande pas ce que ça veut dire. On se dit, comment ça sonne, en fait. Il retranscrit la façon dont ça sonne. Donc, quand c'est dans du dialogue, c'est comment ça sonne. Donc, là, on retrouve. Donc, j'apprends un codage d'écriture de certains écrivains anglo-saxons, en particulier, quand ils codent la sonorité de ce qui se dit. Et j'apprends une autre chose, c'est que les traducteurs français, même s'ils connaissent le code, ils manquent d'imagination. Parce qu'il aurait pu traduire en disant, élicieux. Vous pouvez trouver n'importe quelle formule écrite pour trouver un équivalent. Donc je me dis, là, le gars, il est un peu paresseux, c'est dommage, on aurait pu trouver quelque chose. Autre exemple, un roman d'Asimov que j'aime beaucoup qui s'appelle The Gods Themselves, qui est le roman. Pendant 15 ans, il n'a plus écrit de science-fiction, il a fait de la vulgarisation, il a écrit d'autres choses. Et puis on lui dit, faut revenir nous faire de la science-fiction, vous êtes devenu une icône, vos livres sont des classiques. Et il écrit, il dit, mais il faut que je cherche une idée. Il trouve une idée. Son idée, c'est d'écrire une société dans laquelle il n'y a pas deux sexes, mais trois. Donc il invente une société extraterrestre qui est dans un univers parallèle à celui de la Terre dans lequel il y a trois sexes, effectivement. C'est pas ça l'histoire, mais ça lui permet de construire son histoire. Et dans l'univers terrestre, il y a un savant qui essaye de comprendre quelque chose aux relations difficiles entre ces deux univers parallèles et qui tombe amoureux de la femme avec laquelle, qui est elle-même aussi une scientifique, de la femme avec laquelle il travaille. Puis il y a toute une histoire, ça se résout. Et à la fin, lui, il est un peu il est un peu, comment dirais-je, réservé, il n'ose pas lui faire des propositions, etc. Alors qu'elle, elle est très délurée sur le plan sexuel. Et il lui dit, moi, j'ai pas eu de... Comme beaucoup de héros d'Asimov, ils n'ont pas beaucoup de sexualité, les héros d'Asimov. Alors, c'est un vieux garçon, etc. Et il lui dit, je ne suis pas très bon. Pour ce qui concerne l'amour, je ne suis pas très bon. Et elle lui dit, tu pourrais apprendre. You could care to learn. Et il répond... Only if you want to teach me. Non. Et puis, oui, c'est ça. Hesitantly, he answered, only if you want to teach me. Et les deux dernières phrases, c'est à peu près, he stepped forward, she didn't budge, she didn't move, he stopped hesitating. He stopped hesitating. Pas he stopped, virgule. Hesitating. See, he stopped hesitating. Que je trouve merveilleux, parce que hesitantly, et puis he stopped hesitating. Il s'avance à hésitant, il cessa d'hésiter. C'est merveilleux. Et en français, ça marche très bien. Il cessa d'hésiter. Je vais voir la traduction française, et le traducteur avait traduit, il s'arrêta hésitant. He stopped, virgule, hesitating. C'est-à-dire qu'il ruinait la fin.
Il ruinait la chute.
J'ai écrit à l'éditeur. Ils ont corrigé. Mais là, je me rends compte que pour rendre les subtilités, y compris les subtilités qui vont vous faire rire, les subtilités d'une langue, il faut faire attention, quoi. Il ne faut pas juste traduire comme ça au kilomètre. Il faut regarder. Il y a toujours, surtout un écrivain. Alors, en plus, c'est un écrivain que je connais bien. Je connais bien l'humour d'Asimov. Je sais bien qu'il joue tout le temps sur les mots. Asimov, il a pondu 3000 limericks et jeux de mots et calembours, etc. Donc, c'est un spécialiste de ça. Il aime la langue. Il travaille la langue. Donc, pour rendre Asimov en français, il faut faire attention. Ce n'est pas juste un type qui écrit des machins avec des fusées. Il écrit vraiment. Et tout ça, ce sont des expériences qui me font prendre conscience non seulement de la richesse qu'il y a dans la traduction, mais aussi, parce que c'est ça le fond de l'affaire, c'est que la traduction, ce n'est pas un travail sur le texte de départ, c'est un travail sur le texte d'arrivée. La traduction, c'est de l'écriture. Une bonne traduction, c'est un texte qu'on lit comme s'il avait été écrit directement dans la langue d'arrivée. Il a les caractéristiques stylistiques, narratives, comment dirais-je, les subtilités aussi autant que possible du texte de départ, mais quand vous le lisez, vous n'avez pas l'impression que c'est quelqu'un qui vous parle dans une langue étrangère, en principe, au mieux. Et ça, c'est une grande école parce que ça nécessite, ça montre que la politesse qu'on doit... Le respect qu'on doit au lecteur, à l'auteur de départ. Mais surtout au lecteur, parce que l'auteur de départ, il a écrit son texte, il est tel qu'il est, il ne bougera pas, personne n'y touchera, il peut être lu dans sa langue. Mais il y a un respect qu'on doit au nouveau lecteur, qui est celui qui va le lire dans une autre langue, qui est de lui donner non seulement un texte qui respecte le texte de départ, mais un texte qui le respecte lui en tant que lecteur. Qu'il n'ait pas besoin d'aller vérifier... si on a été fidèle. Et ça a déteint aussi sur ma façon d'écrire pour moi, c'est-à-dire que d'écrire mes propres textes, parce que je me suis dit, si je ne peux pas faire moins que d'être fidèle et d'être respectueux de mon lecteur quand je traduis, je ne peux donc pas faire moins non plus que d'être respectueux de mon lecteur quand c'est moi qui écris. C'est-à-dire que, à la limite, je dois faire en sorte que mes textes, mes lecteurs n'aient pas besoin de les traduire pour les comprendre. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà comment j'ai développé un certain nombre de traits d'écriture, à la fois par le mélange entre la fiction et la science. Le mélange aussi des genres et des styles, parce que quand on apprend à écrire, quand on apprend à traduire des comic books, on apprend aussi à parler ou à faire parler des personnages comme ils parleraient dans les comic books si les comic books étaient écrits en français. C'est-à-dire que s'ils utilisent une expression anglophone qui est très imagée, si vous la traduisez littéralement, ça va être ridicule en français. Il faut trouver un équivalent. Et il faut trouver un équivalent qui soit approprié au personnage qui parle. Alors par exemple, il y a quelques années, j'ai fait une première expérience de traduire des comic books de Batman, qui sont des comic books très particuliers, qui étaient dessinés par un très grand dessinateur des années 70, qui s'appelle Neil Adams. Et Neil Adams a ressuscité Batman. Il en a fait la figure de Batman qui annonce le Batman de Dark Knight et de Christopher Nolan, c'est-à-dire un personnage qui est beaucoup plus sombre que le Batman antérieur, qui est un personnage de comédie. Batman, c'est de la comédie dell'arte jusque dans les années 60, le pingouin, le Joker, etc. Tout ça, c'est du comic book. Lui, il réinvente un Batman qui est un Batman sombre. Donc j'avais lu ça quand j'étais adolescent, je trouvais ça merveilleux, et un jour on me dit, écoutez, il paraît que vous êtes un grand fan de comics, on va traduire le Batman de Neil Adams, est-ce que vous voulez, on va le rééditer en France, est-ce que vous voulez le retraduire? Parce qu'il a été traduit dans les années 70, mais il faut le retraduire. Alors je dis oui, bien sûr. Et là je me rends compte que c'est écrit dans le style des comic books des années 70. Donc je ne vais pas traduire ça dans le style des comic books des années 2000. Je ne vais pas traduire ça dans le style des bandes dessinées françaises des années 2000. Donc qu'est-ce que je fais? Je me remémore la manière dont on parlait dans les années 60 et 70, entre gamins, dont on parlait au cinéma, parce que je suis allé beaucoup au cinéma, et que les dialogues n'étaient pas du tout articulés de la même manière dans les films des années 60 et des années 70. Et j'ai traduit le Batman des années 70 comme s'il avait été traduit dans les années 70. J'ai fait un effort... Ne serait-ce que parce que, par exemple, vous n'allez pas traduire, vous êtes obligé d'utiliser des mots qui n'existent plus, comme par exemple, typewriter, vous utilisez machine à écrire. Vous n'allez pas dire clavier, vous n'allez pas dire ordinateur. Mais si, mais typewriter, c'est un mot. Machine à écrire, c'est trois mots. Donc comment il faut faire? Vous utilisez clavier plutôt que machine à écrire. Parce que clavier, tout le monde va comprendre. C'est pas faux par rapport au mot d'origine, mais ça prend moins de place que machine à écrire, qui est beaucoup trop long. Donc on est obligé de trouver des équivalents qui respectent à la fois la syntaxe de l'époque et aussi le style. Quand Batman dit... quand Robin dit... Great Scott! Ou quelque chose de beau... Parce qu'aujourd'hui, il dirait des trucs beaucoup moins... beaucoup moins poli, quoi. Donc, je suis obligé de trouver une expression qui va pas être complètement ridicule en français, mais qui va être l'équivalent de... Alors, ça va être grand Dieu. Mais grand Dieu, c'est quelque chose qu'on aurait lu dans les comic books des années 70 en France. Ça fait, suranné aujourd'hui, mais c'est normal, parce que de toute façon, si on lisait les comic books en anglais, le dialogue serait suranné aussi. Donc ça, c'est très passionnant, parce que ça oblige à faire un travail de remémoration de la manière dont on parlait autrefois. Alors on lit des trucs, on va regarder des films, tout ça, puis on se souvient. Et comment je disais ça quand j'étais petit? Comment je disais ça quand j'étais adolescent? Par exemple, quand j'aimais beaucoup quelque chose quand j'étais adolescent, je disais « Ah, c'est vachement bien ». Bon, mes enfants, ils disent jamais ça. Même quand on était en France, ils disaient c'est quoi ça, vachement bien. Ça, c'était une expression typiquement des années 60, des années 70. Je grandissais avec. Donc, c'est un travail aussi très intéressant pour l'écrivain, parce que si on se remémore comment les gens parlaient avant, on comprend d'abord mieux le passage d'une langue à une autre, mais aussi on a une appréhension beaucoup plus riche. Et ça permet aussi de faire parler des personnages de manière différente et d'indiquer, par exemple, l'époque, leur âge, en les faisant utiliser des termes que des gens plus jeunes n'utiliseraient pas. Aujourd'hui, on dit que c'est simple de faire parler des jeunes gens comme les jeunes gens d'aujourd'hui, oui, mais c'est beaucoup moins simple de faire parler des gens plus âgés comme ils auraient parlé il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Parce que si on n'a pas eu accès à ce lexique-là, si on ne l'a pas soi-même pratiqué, comment le retrouver? On ne peut pas. Donc ça, c'est très précieux pour quelqu'un qui se souvient de ça et qui a besoin de temps en temps de faire l'exercice de retrouver la langue. C'est pour ça que même la traduction de comic books, qui est amusante, qui m'a fait plaisir, etc., c'est une traduction qui m'a beaucoup appris. Je viens de traduire, là, il n'y a pas très longtemps, un comic book beaucoup plus récent, qui s'appelle Joe the Barbarian, qui est un comic book de Grant Morrison. Je l'ai traduit, justement, alors dans un esprit un peu différent, mais en respectant l'histoire, qui est une histoire un peu d'heroic fantasy, mais qui est aussi un fantasme, parce que c'est l'histoire d'un garçon qui est diabétique et qui rentre chez lui après avoir été maltraité par ses camarades de classe. Et il est en hypoglycémie, et il se trouve en hypoglycémie chez lui. Il est dans sa chambre, qui est au deuxième étage dans le grenier, et il faut qu'il descende au sous-sol chercher du coca pour lutter contre son hypoglycémie. Et pendant toute sa descente, il délire qu'il est dans une sorte de monde parallèle dans lequel il est un héros. Et ça le suit pendant toute la descente dans la maison. Donc, il y avait là-dedans à la fois du techno-babble, parce que ça se passe dans un univers genre Star Wars, etc. Il y avait des termes médicaux, parce qu'il est diabétique. Et puis, il y avait des expressions personnelles, il y avait le dialogue avec sa mère, etc. Et c'est ça que je trouve le plus fascinant, c'est d'avoir à travailler sur différents lexiques en même temps. Je crois que j'avais encore un truc à vous raconter, après je vais vous laisser tranquille. J'ai traduit aussi, j'aime beaucoup ce roman, j'ai traduit un roman de Harry Matthews qui s'appelle Le Journaliste. Et là, à ce moment-là, il faut savoir une chose, c'est que j'étais très intimidé à l'idée de traduire Harry Matthews, parce que le traducteur antérieur de Harry Matthews, c'était Georges Perec, qui était mon idole. Et un jour, on me dit, vous allez traduire Harry Matthews. Et en plus, on me donne comme essai de traduction une nouvelle que Georges Perec avait traduite. Et je l'avais lu, la traduction de Perec. Je dis, mais je ne peux pas. Vous me demandez quasiment de toucher au texte sacré, doublement sacré. On me dit, mais vous avez qu'à oublier, mon éditeur me dit, mais oubliez la version de Perec, traduisez-la comme vous avez envie de traduire. Donc je traduis, Harry Matthews est très content, il me dit, t'as trouvé des trucs que Perec n'avait pas compris du tout, parce que Perec n'avait pas ton niveau d'anglais. Bon, d'accord. Et il me confie son roman. Mais je suis encore très intimidé, donc comme je sais que Matthews est très pointilleux, je traduis, mais à la virgule près. Et quand Matthews reçoit ça, il me dit, mais c'est catastrophique. Je veux que tu traduises en écrivain. Il faut que tu t'appropries et que tu réinventes le texte. Que tu l'écrives comme si c'était toi qui l'écrivais. Tu es obligé de trouver des équivalents. Tu ne vas pas pouvoir. Et donc, par excès de retenue, par peur de trahir, je m'étais trompé. Donc j'ai refait une traduction dans laquelle là je me suis un peu plus lâché. Et là tout le monde était beaucoup plus content parce qu'il retrouvait à la fois le texte de Matthews sans trahison. Bon, quand il y avait trois bricoles, il m'a dit bah non, là ça voulait dire ça, ça voulait dire ça. Mais ça c'est un truc qu'on fait au dernier moment. Et on était tous très contents du résultat. Oui, la dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est du fait que malheureusement pour moi. Alors, il y a plusieurs de mes romans qui sont traduits dans plusieurs langues, en particulier en italien, en allemand, en espagnol. J'ai même des romans policiers qui sont traduits en norvégien. Un seul de mes romans est traduit en anglais. Et c'est La maladie de Sachs, c'est le roman qui m'a fait connaître. Ça m'a valu des tas d'expériences tout à fait intéressantes, parce que je suis venu en Amérique du Nord à la fois... francophone et anglophone pour en parler, donc j'étais très heureux, mais je suis très malheureux qu'il n'y ait que ce roman-là qui soit traduit en anglais, parce que, par exemple, le roman qui s'appelle Les Trois Médecins, qui est un remake des Trois Mousquetaires, je suis sûr qu'en anglais, ce serait formidable. Parce que c'est vraiment un roman d'aventure, quoi. Bon. Il faut qu'il y ait un éditeur qui veuille traduire les gros romans de 600 pages, en général, les éditeurs, ils n'aiment pas trop ça. À traduire, parce que ça coûte cher. Mais l'expérience que j'ai eue de la traduction de mon roman en anglais, c'est une expérience tout à fait merveilleuse, parce que j'ai travaillé avec une traductrice qui s'appelle Linda Asher, qui était une grande traductrice, qui est toujours en activité, autant que je sache, de New York, Et j'ai fait un travail avec elle qui était un travail tout à fait merveilleux, parce que c'est vrai que dans mes romans, il y a beaucoup d'expressions, d'expressions courantes, parce que mes romans se passent souvent, il y a souvent des gens de la campagne qui s'expriment d'une certaine manière, avec des expressions un peu imagées, parfois des expressions qui datent des années 60 et qu'on peut ne pas connaître, surtout quand on parle dans une autre langue. Et là, j'ai eu un plaisir immense qui était pas vraiment d'aider Linda à traduire, parce qu'elle savait parfaitement traduire, mais de chercher avec elle des équivalents en anglais aussi imagés que possible, qui pouvaient prendre la place de mes expressions en français. Et ça, c'est un travail merveilleux, parce que j'aurais pas pu le faire tout seul, parce qu'elle connaît son registre de la langue anglaise est bien évidemment infiniment plus grand que le mien, mais on arrivait tous les deux toujours en discutant à trouver des équivalents. Et ça, c'est un travail que j'ai trouvé absolument formidable. Je pense que c'est d'ailleurs même autant pour ça que j'aimerais que mes romans soient traduits un peu en anglais, parce que j'aimerais retravailler là-dessus. Et je terminerai en disant qu'un de mes rêves, c'est d'écrire un jour un livre directement, un livre de fiction. J'ai déjà écrit des articles scientifiques en anglais. Il y a très longtemps, j'ai écrit des nouvelles, je ne sais pas ce qu'elles valaient en anglais. Mais là, j'aimerais bien un jour écrire un roman directement en anglais. Et je dois dire que c'est un vieux rêve. Le fait de vivre en Amérique du Nord, ça m'a rapproché de ce rêve. C'est-à-dire que je trouve ça moins ridicule maintenant que de vouloir le faire quand je vivais en France. Parce que quand je disais ça en France, on me disait « Mais pourquoi faire ?» Alors qu'ici, ce n'est pas ridicule de vouloir écrire en anglais. Mais j'ai encore cette crainte de ne pas maîtriser la langue anglaise assez bien pour en faire un texte qui ait une valeur en tant que texte, pas seulement en tant qu'histoire, mais en tant que construction autour de la langue. Et je suis en train de réfléchir à l'idée que peut-être ce que je pourrais faire, c'est faire annoncer d'emblée par mon narrateur que c'est pas sa langue maternelle. Et que donc forcément, quelque chose qui serait « You have to remember my mother tongue is French, so I hope you pardon my broken English », quelque chose comme ça. Parce que une fois que le lecteur est au courant, il peut accepter que l'anglais ne soit pas un anglais académique ou littéraire, mais qu'il fasse état justement de cette incertitude. Et du coup, ça me lance vers une idée qui est peut-être que le roman doit parler de l'incertitude linguistique, quelque part. Il doit parler du fait d'être entre deux langues. Donc je suis en train d'élaborer, vous voyez, à partir d'un projet qui est un projet d'écrire quelque chose en anglais, je suis en train d'élaborer une histoire qui elle-même, au sens presque oulipien du terme, à partir de la contrainte, je suis en train d'essayer d'élaborer une histoire qui parle de la contrainte. Voilà, je vous remercie et je serai heureux de répondre à vos questions. Ah, j'ai parlé plus longtemps cette fois-ci. Hein. Je pensais que j'avais moins à en dire pourtant, mais bon.